Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 109. Trois fois 20 ans, ça va ? Jean-Paul Savard, chers amis, bonjour. Vous savez que l'on peut exister plusieurs fois en même temps ? Vous êtes là et ailleurs. Nous avons en tête cet exemple assez rigolo d'un homme politique, pas toujours hilarant, et qui a réussi à faire parler de lui grâce à des hologrammes. Il faisait aussi des meetings dans plusieurs villes en même temps. Mais moi, je préfère comme exemple le film Mulholland Drive de David Lynch, où il y a deux personnages, deux femmes qui se retrouvent constamment. On ne sait pas qui est qui, on ne sait jamais les reconnaître, la victime ou l'amnésique. Et en plus, elles échangent leurs perruques pour créer encore plus de confusion. Eh bien donc, aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter mon double. Bonjour Jean-Paul Savard.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors, je raconte un peu notre histoire. Cela faisait 50 ans que l'on ne s'était pas vu. Et on était étudiants ensemble à l'école de journalisme. On n'était pas dans la même année, donc on s'est juste croisés. Et on s'est quand même reconnus. Et là, on se retrouve parce que l'on fait tous les deux partie de la même chose, de la même association des anciens étudiants, mais surtout parce que tous les deux, on écrit des livres. Alors, est-ce que, Jean-Paul Savard, vous vous souvenez de moi pendant le demi-siècle qui vient de se dérouler? Est-ce que vous êtes souvenu un peu? Voilà. Est-ce que j'ai changé, finalement?
Mais pas du tout. Vous êtes toujours autant foutraque, mon cher Ambroise Perrin. Toujours aussi fou, avec les cheveux toujours aussi fous, à peine moins abondants. Mais bien touffu quand même, et bien touffu dans votre tête aussi.
Oui, mais alors, est-ce que on peut garder le souvenir de quelqu'un au bout d'un demi-siècle, hein, pendant un demi-siècle, madame, voilà, le début d'un cœur simple de Flaubert, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu, pas déçu, mais on se dit, mince, qu'est-ce qu'il a changé, qu'est-ce qu'il a vieilli, puis après on se dit peut-être moi aussi, non?
Mais bien sûr que vous avez vieilli, mon cher ami.
Déjà, non. Répondez-moi sérieusement. Mais...
non, j'avais de vous l'image d'un étudiant un petit peu original et même très original, mais pas complètement fou comme l'homme que j'ai retrouvé maintenant. C'était un jeune homme romantique, et justement, votre amour pour Flaubert, enfin votre passion pour Flaubert, vous étiez un personnage de Flaubert.
Oui, je l'avais déjà comme étudiant, c'est vrai.
C'est évident, vous étiez un personnage du 19e siècle qui se promenait... Et maintenant, je ne sais pas de quel siècle vous êtes, alors, parce que vous avez bonifié votre folie.
Oui, mais quand même, de façon générale, oui. Lorsque l'on voit quelqu'un après tant et tant d'années... c'est quoi la première impression? Est-ce qu'on s'attache au physique des gens ou est-ce qu'on arrive à creuser un petit peu en se disant...
Alors écoutez, pour le physique, oui, on s'attache au physique des gens. Et vous savez ce qui est terrible? On a le souvenir de quelqu'un, on avait 20 ans, c'était une jolie fille à la taille de guêpe, au port altier, et puis vous retrouvez une mamie. Et c'est terrible, on vous dit, mais est-ce la même personne? Et après, on va se voir dans un miroir, on se dit... Mon Dieu, et qui est-ce que je vois dans ce miroir? Alors, je vais quand même vous faire un compliment, mon cher Ambroise. Je vous ai reconnu. Je vous aurais croisé dans la rue, je vous aurais reconnu,
moi,
mais peut-être
pareil.
À votre démarche de folie, mais je vous ai reconnu.
Oui, mais alors, c'est quand même assez insolite. On a fait tous les deux de la presse écrite, on a fait tous les deux de la télévision à FR3, et on s'est tous les deux intéressés à l'Europe, hein, et au fonctionnement du Parlement européen. Et en fait, on ne s'est pas croisés.
Alors, on s'est recroisés au Parlement européen, en fait.
Oui, mais...
Vous m'avez guidé dans les coursives du Parlement européen.
Oui,
vous m'avez expliqué, vous m'avez simplifié
la vie. Mais c'était professionnel. Donc
absolument.
C'était pas le vieux copain
sinon,
que je retrouvais.
Non, mais est-ce qu'on était copains quand on... Parce qu'en fait, on était chacun dans son monde. Moi, quand j'étais étudiant... Je travaillais pour payer mes études et
moi aussi.
Et voilà, mais c'est ça.
Pion, on était en plus loin.
Et donc on était. Et je vais même vous dire quelque chose. J'allais très peu en cours. J'ai potassé mes cours une semaine avant l'examen. Mais j'étais plutôt ailleurs que dans les cours et pas tellement avec les étudiants de l'époque. Et donc on se croisait assez peu.
Oui, alors donc on s'est connus, mais pas et on s'est reconnus.
Alors on s'est surtout reconnus.
Oui.
Voilà. On s'est surtout reconnus
voilà.
Dans un brin de folie, dans un...
Mais est-ce que le temps ne bonifie pas les choses ? Parce qu'on aurait pu s'engueuler, on aurait pu être ou rivaux sur un stage ou je ne sais pas quoi. Et après, on fait semblant d'être les meilleurs amis du monde. Je ne parle pas de nous deux, mais de façon générale.
Alors, c'est certain, mais il n'y a pas eu d'hypocrisie dans nos rapports. Et moi, je refuse l'hypocrisie dans les rapports humains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois... qu'une personne n'est pas nature, n'est pas franche, je reste poli, je reste courtois, mais je ne reste pas, je reste courtois, poli, mais je ne reste pas avec cette personne. Moi, je vous revois avec des défauts amplifiés que je n'imaginais pas quand vous étiez jeune et qui, pour moi, aujourd'hui, sont des qualités.
Bon, alors, sur le plan personnel, mais ne racontons pas notre vie.
Non, ne la racontons pas.
Ni privée, ni secrète. Mais simplement, est-ce que vous avez des enfants ?
Oui.
Vous êtes grand-père ?
Oui.
Ah ! Et alors, ça fait quoi d'être grand-père ?
Ça fait vieux. Ça fait vieux de se faire appeler papy.
Est-ce que vous avez participé à cette fameuse manifestation où on se moquait de la CGT ? Ça devait être un 1er mai, les étudiants de l'école de journalisme, et on était dans leur rang et on criait « Nous, ce qu'on veut, c'est bouffer les vieux !»« Nous, ce qu'on veut, c'est bouffer les vieux !» Bon, maintenant, on est vieux.
On est vieux, ouais.
Ouais.
Et j'ai pas envie de me faire bouffer.
Non, oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez ce rapport maintenant avec, les jeunes générations
C'est-à-dire que les jeunes... Attendez, vous voulez que je vous dise,
oui.
C'était mieux de notre temps... Et c'est pas bien maintenant. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, j'aimerais revenir à l'envers. C'est-à-dire que après-demain, je vais fêter mon 1e anniversaire. Et ce que je souhaiterais, c'est que mon 1e anniversaire soit mon 1e anniversaire moins 1. Et qu'on revienne comme ça.
Oui,
et quel bonheur qu'on se retrouve ainsi à l'âge de 20 ans à l'école de journalisme de Strasbourg.
Ah oui, alors moi j'imaginerais un film. Je crois que c'est Bob Dylan qui s'est fait filmer pendant 3 ans ou 5 ans en continu, même quand il dormait. Mm-hmm. Je crois que c'était lui ou Andy Warhol. Mais espérance de vie, 90 ans maintenant. Donc,
110 ans maintenant. 110 ans. Alors oui, sans nous de la marge.
Pendant un demi-siècle, on se fait filmer.
Oui.
Donc de 0 à 50 ans. D'accord. Le jour de votre anniversaire à 50 ans, vous rentrez dans une salle de cinéma et on vous passe votre film en marche arrière chaque année.
Oui.
Et donc, vous avez 50 ans de film à visionner.
Oui, et on arrive à 100 ans comme
et
ça.
Et on arrive à 100 ans et vous, la dernière bobine, c'est votre naissance.
Oui.
C'est un petit peu 2001, l'Odyssée de l'espace, je crois, le thème. Mais donc, on arriverait à une espèce de recommencement, comme ça, l'éternel recommencement de Gérard de Nerval. La 13e heure était à nouveau la première. Là,
et voilà, on repartirait, partir du 0 an, on repartirait.
On repartirait. Mais ça ne peut pas être physique. Il faudrait que ce soit culturel, mental. Ouais.
Qu'est-ce que ça serait formidable de faire ça? Parce que, alors, on serait obligé de revivre les 50 années à l'envers telles qu'elles se sont vraiment déroulées. On se verrait vivre à ce moment-là.
Voilà, exactement.
Mais quand on repartirait, on pourrait vivre autrement.
Oui.
Ce serait formidable.
On prendrait sa retraite à 30 ans quand on est en super forme. Et après, on travaillerait jusqu'à 75 ans.
Et on pourrait retrouver toutes les femmes dont on rêvait, qu'on n'a pas pu aborder.
Oui, mais moi, j'ai 10 enfants, 17 petits-enfants.
Alors, le problème est là.
17 fois grand-père, formidable.
Non,
mais je blague.
Ferions-nous alors? Parce que si je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime... pendant quelques instants secrets à celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit. Alors moi, j'aimerais retrouver, j'aimerais... Non, non, mais laissez-moi parler, Ambroise, enfin.
Je rappelle qu'on est sur Radio Judaïca à Strasbourg et que notre invité est Jean-Paul Savard.
Ah, oui, et que l'intervieweur est Ambroise Perrin.
Voilà.
Il ne faut pas l'oublier non plus, ça.
Voilà, donc cette chanson, c'est quoi ?
Ben, c'est toutes les... en fait, c'est l'aveu de sa timidité, c'est l'aveu des regrets, les regrets. On dit qu'il ne faut pas vivre avec regrets. Mais comment est-ce qu'on peut
ne pas vivre ? Je ne regrette
mais,
rien.
Oui, mais quand on dit ça, c'est comme la solitude, ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Oui. Et les regrets, on vit avec.
Et Léo Ferré.
On vit avec sa solitude. Et puis, non, mais même si on
Et quand
pire,
on devient
ça.
Un tout petit peu vieux, puisque c'est pas un gros mot de dire vieux.
Un tout petit peu, je dis vieux, on est des vieux. On a la carte vieux à la SNCF.
Bon. Est-ce qu'on se sent seul parfois ?
Ben, on se sent seul dans sa vieillesse, parce que dans sa tête. On a toujours 20 ans, sauf que les autres ne nous voient plus avec les 20 ans que l'on a dans la tête. Ouais. Et les gens qui sont encore capables de discuter avec nous, de s'arrêter, de nous regarder, n'ont plus 20 ans eux-mêmes. Mais nous, on les voit avec l'âge qu'ils ont à l'extérieur et non plus avec les 20 ans que peut-être ils ont toujours dans leur tête.
La pire des choses pour une dame qui a notre âge, elle rentre dans le bus... Et tout d'un coup, il y a une jeune fille qui se lève et dit « Vous voulez ma place, madame ?»
Mais pourquoi pour la dame ? Moi, il y a une jeune fille dans le train, elle m'a fait le coup. Je lui dis « Petite, c'est parce que j'ai plus d'expérience que toi et que tu veux que je t'en apporte tu fais ça ?»
On va pas les rouspéter.
Non, j'ai pas dit ça, je voulais pas parler de cette façon. Non, mais elle m'a pas cédé la place, la petite. Hein, elle s'est rassise en rigolant. Et donc, j'ai vu que je pouvais toujours un peu séduire une jeunette de 20 ans en disant « Quel vieux con !»
Quel narcissique.
Reste donc, mais non, c'est
un deuxième
degré.
Sans trop plonger dans le narcissisme qui sublime les étapes d'une vie, racontez-moi votre enfance.
Mon Dieu, mon enfance à quel âge ? On est enfant à quel âge ?
À partir du moment où on a des souvenirs.
Mes premiers souvenirs, mon Dieu. Alors on dit qu'on se souvient plus des choses plus à mesure qu'on vieillit, on se souvient beaucoup plus des choses d'autrefois et de moins en moins des dernières choses. Alors je pense que je suis encore peut-être pas assez vieux pour me souvenir précisément des choses de tout petit, parce que mes souvenirs sont très diffus. Si, je sais ce que je vais vous dire. Ça sentait le purin, on entendait les carrioles sur le pavé, et on apercevait au loin la tour Eiffel. Et ça se passait à Bobigny. C'était dans les jardins de mes grands-parents, qui étaient maraîchers. Bobigny, vous connaissez Bobigny
oui.
J'y suis retourné.
Et pourquoi il y avait la tour Eiffel ?
Mais parce qu'on la voyait au fond, parce qu'on est du jardin de mon grand-père qui était maraîcher. On voyait la tour Eiffel qui devait se trouver à une dizaine de kilomètres de Bobigny, parce qu'il n'y a pas de montagne entre... Vous savez qu'il n'y a pas de montagne entre ce qu'on appelle la Seine-Saint-Denis aujourd'hui
dans l'île
et
de
Paris,
France,
dans l'île de France. Et j'apercevais au loin la tour Eiffel depuis...
Et vous n'étiez pas parisien.
Je suis né à Noisy-le-Sec. Alors, pas le Noisy-le-Sec d'aujourd'hui, c'était le Noisy-le-Sec. Alors, le souvenir aussi de jeunes garçons, d'enfants, c'est la noirceur. Les trains à vapeur, la vapeur des trains.
Jean Gabin dans...
Absolument, La Bête humaine.
La Bête humaine. Oui.
Alors, mon enfance, c'est à la fois le bucolique. Alors, vous savez, j'ai quand même préféré les bons souvenirs, le jardin de mes grands-parents, les oiseaux qui chantent, mais surtout l'odeur du purin. J'adore l'odeur du purin. Bien sûr, parce que c'était pour moi... J'adore respirer le purin parce que c'est la campagne, c'est la... En revanche, j'aime pas l'odeur du tout du charbon et de la vapeur des trains. Et d'ailleurs, mes parents m'ont fait partir. Mon père a demandé sa mutation. Il travaillait à Paris à l'époque parce que j'avais de l'asthme et que le médecin a dit si vous restez habité à côté de ces voies, c'était un nœud ferroviaire, le Noisy-le-Sec. Votre enfant va mourir des bronches, vous savez. Donc, on est parti à la campagne. En revanche, quand j'étais dans le jardin de mes grands-parents, qui étaient maraîchers, C'était la campagne. Et on allait le matin. Donc, c'est ces souvenirs-là donc, dont j'ai envie de me souvenir. Et on partait avec un vieux camion Renault ou Peugeot. Vous savez, les camions qu'on voit dans les films en noir et blanc de Jean Gabin. Et on allait au Halde comme dans les films de Jean Gabin en noir et blanc.
Avec un tube Citroën.
Oui, c'était pas un tube Citroën, c'était plus vieux que ça. Oui. C'était un truc d'avant-guerre, je crois bien. Un vieux camion d'avant-guerre, vous savez, les maraîchers, ils gardaient leur vieux truc. Hein. Ils avaient encore la carriole avec un cheval. Ils avaient leur camion qui datait...
Là, on est à la fin des années 1950.
Là, on est en... Oui, c'est ça, ouais. Oui. On est à la fin des années 50, oui, c'est ça.
Alors,
ouais.
Alors je fais un saut en avant. Pourquoi venir à Strasbourg pour faire l'école de journalisme, le QEJ?
Ben parce que à l'époque où j'ai choisi d'être journaliste, je voulais pas absolument pas être journaliste, je voulais être médecin. Et puis les études de médecine à l'époque duraient 7 ans, il paraît que maintenant c'est encore plus long.
Oui.
Bon, je crois que mes parents m'auraient payé mes études, mais je souhaitais prendre mon indépendance. J'avais envie, à l'âge de 18 ans, d'être indépendant pour aller voir le monde par moi-même et non plus rentrer chez mes parents tous les soirs. Et donc il fallait d'une part que je trouve un travail, d'autre part que je paye mes études. Or, les études de médecine, je crois qu'il faut vraiment les travailler. On peut pas travailler. Enfin, bravo j'ai fait une année de médecine beaucoup plus tard et je me suis aperçu que c'était de la folie.
C'est pas fait pour les glandeurs.
Non, c'est pas fait pour les glandeurs, mais je crois que c'est pas fait non plus pour les travailleurs à côté. Or, le journalisme, c'était 3 années d'école. Il y avait à l'époque 3 années. Comme je participais au journal du lycée, qu'on me dit, bah, tu écris bien, machin, pourquoi tu ne ferais pas journaliste? Ça m'est venu comme ça, mais ce n'est pas une vocation du tout. Hein. Oui, pourquoi pas être journaliste?
Alors j'ai regardé... ça, c'était au début des années 70.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il y avait 3 écoles de journalisme, Lille, Paris et Strasbourg.
Et Strasbourg. Alors, il y avait 2 écoles privées, 1 école publique. Les écoles privées, il faut les payer. L'école publique, ben, ce n'est pas la peine. L'école publique, c'était Strasbourg. Je suis venu à Strasbourg.
Qui est pourtant réputée comme être la plus prestigieuse, disons.
Oh non, parce que Lille, je crois que c'était sur un plan d'égalité quand même. Oui. Mais il y avait... Non, je pense qu'on méprisait un peu. Quand j'en parlais, alors ça n'existait pas les conseillers d'orientation, mais quand je me suis renseigné, on me donnait des meilleurs renseignements sur Lille et Paris, parce que c'était des écoles privées, en fait. Et quand on se dit, du moment qu'on paye, bah, que c'est beaucoup mieux. C'est vrai qu'on apprécie moins quelque chose de
gratuit. Alors, le souvenir que j'ai, moi, c'est que Lille et Paris, effectivement, c'est loin, hein, c'est dans la France de l'intérieur.
Oui, bien sûr.
En fait, il y avait, comme c'était des boîtes privées, ils avaient des vedettes, des journalistes qui venaient faire des cours.
Oui.
Et surtout, les débouchés étaient meilleurs
que...
L'école de Strasbourg était attachée à l'université.
Absolument.
C'était un diplôme universitaire, non pas le diplôme d'une école.
Oui.
Mais je me souviens quand même d'un des cours, alors je ne sais plus si c'était en première année, je ne sais pas si vous l'avez eu, Léon Zitrone, qui est venu nous faire des cours.
Je ne l'ai pas eu.
Ah oui.
Vous savez que...
Des cours de diction. Oui.
Léon Zitrone.
Il est venu, au QEJ à Strasbourg.
Vous voulez que je vous dise quelque chose sur Léon Zitrone?
Dites-moi.
Guère de temps après, ma maman qui s'occupait de la SPA avec mon papa, ils ont créé la SPA, on était en Saône-et-Loire, ils ont créé la SPA de Mâcon. On avait des animaux partout dans la maison, ce qui me rendait malade parce que j'étais asthmatique. Et puis un jour, il y a une portée de chien, ma chienne Choumi a fait des... Non, ça s'appelait Gamine. Et il fallait qu'on choisisse un chien, on les donnait aux voisins, les autres, et ma maman m'a dit, allez, lequel on prend? J'ai pris le plus gros, le plus laid, mais qu'il était énorme.
Et vous l'avez appelé Zitrone?
Non, Léon.
Léon, voilà. Alors, il faut même que j'explique à nos jeunes auditeurs, Léon Zitrone, c'était la star de la télévision.
Ouais.
Il n'y avait qu'une seule, enfin non, 2-3 chaînes, mais il faisait tout.
Oui.
Le tiercé, il présentait le journal, toutes les émissions de sport,
bien
le
sûr,
Tour de France.
Et le mariage de la reine, il disait, voyez les gens qui passent à côté de moi, qui me saluent, c'est la reine et son nouveau mari, et son mari, pardon, c'est la nouvelle reine.
Oui, voilà. Il faisait tous les reportages princiers.
Et ouais, il faisait aussi,
c'était une superstar.
Il faisait aussi le Tour de France, il sortait de la voiture et il saluait les gens, il parlait pas des coureurs. On disait Léon.
Et après, il a fait Interville avec Guy Hux.
Oui, mais c'était les vaches se prosterner devant lui, si vous voulez.
Non, voilà. Donc, ce monsieur.
J'ai dit du mal de lui, là.
Non, mais c'était quelqu'un d'un hyper professionnel. Je me souviens comment il nous a raconté comment un tiercé, c'est 30 secondes d'antenne.
Ouais, 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 ouais.
Avec les fiches, comment il lisait, il y avait quelqu'un qui lui mettait les doigts sur la fiche pour le truc. Il nous a appris à être hyper rigoureux.
Ah, bon.
Ah oui, moi j'ai un très bon souvenir. Voilà, Léon Zitrone.
Bon, moi je l'ai pas vu, moi j'ai que le souvenir d'une personne qui est plus importante. Alors, c'est
deux... Alors
c'est
on n'est pas sur Radio Nostalgique, hein.
Non, mais...
on est sur Radio Judaïka Strasbourg.
On parle de journalisme. Vous êtes en train de me dire, mon cher Ambroise, que ce Léon Zitrone que je n'ai pas connu malheureusement au cours au CUEJ, parce que j'aurais aimé effectivement faire sa connaissance, au lieu de me moquer de lui comme ça. Pour moi, Léon Zitrone, pour moi, vous êtes en train de dire que c'était quelqu'un de très rigoureux. C'est vrai qu'il faut être rigoureux en journalisme. Moi, j'avais l'image d'une personne qui se trouve plus important que le sujet dont il traite. Et ça, pour moi, c'est pas du journalisme.
Oui, aujourd'hui, mais à l'époque...
Mais comment aujourd'hui? C'est pareil aujourd'hui. Tout le monde veut être une star, mais il faut être couleur muraille quand on est journaliste. Il faut s'effacer devant l'information.
Vous savez quelle est la meilleure question quand on est un journaliste, à la radio, par exemple?
Oui. Non.
Alors?
Alors, oui, bien sûr, alors, oui.
Et puis on se tait,
et puis on se tait.
Et on se tait.
Et on pose des questions moins longues que les vôtres.
Enfin. Ah non, mais là, c'est un jeu.
Mais bien sûr qu'on est en train de
jouer, mon cher. Alors, est-ce que vous aimeriez avoir à nouveau 20 ans?
Oui.
Ah.
Ça vous ennuie.
Non, est-ce que c'est le plus bel âge de la vie, comme disait Paul Nizan
mais ça serait
dans Eden Arabi?
Ça serait le plus bel âge avec tout ce que je sais maintenant.
Ah oui.
Avec tout ce que je savais à l'époque, c'était pas le plus bel âge, parce que je ne profitais de rien. Quand j'ai eu 20 ans, je ne peux pas dire que j'étais heureux quand j'avais 20 ans, parce que je ne savais pas que j'avais 20 ans, que j'avais toute la vie devant... Si, je savais que j'avais la vie devant moi, donc on ne se rend pas compte qu'il y a la mort qui existe. À notre âge, on sait qu'il y a la mort.
On peut faire,
à 20 ans, on ne sait pas qu'il y a la mort.
Aujourd'hui, on peut faire un pacte freudien, ouais. J'allais dire, pardon, l'éternelle jeunesse, Faust... Et on se dit, voilà, passez cette porte, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Voilà, donc...
Ça serait dur de ça, vous pensez?
Non, je ne sais pas, mais c'est vrai que maintenant, chaque moment est quand même plus précieux, peut-être.
Mais alors, c'est que maintenant, on est en train de se dire, carpe diem, profitons du moment.
Oui.
Et quand on a 20 ans, on ne profite pas du moment. Enfin, moi, je n'en ai pas profité. J'ai essayé de travailler, j'ai fait mes cours, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et quand je vois tout ce que j'ai raté, finalement, parce que je... Mais
à tout point de vue... Les regrets...
Oui, les regrets.
Non,
les regrets,
mais moi je préfère l'idée de s'inventer. C'est la fin de l'éducation sentimentale de Flaubert.
Ouais.
Les deux copains sont côte à côte, la Frédéric Moreau et Deslauriers.
Ça m'aurait étonné que vous ne parliez pas de Flaubert et de l'éducation sentimentale. Pardon, je vous ai coupé, il faut pas faire
et
ça.
Et là, à ce moment-là... ils se racontent une histoire, ils sont allés tous les deux chez une dame, l'un avait l'argent, l'autre avait les fleurs, et puis l'un qui était trop timide, il est parti en courant, et tout le monde s'est moqué d'eux,
ouais.
Et ils se retrouvent 50 ans plus tard, ils disent, c'est là ce que nous avons eu de meilleur,
oui,
oui c'est là ce que
absolument.
Nous avons eu de
c'est
meilleur,
ça.
Dit
c'est exactement
oui.
Ça.
Mais est-ce qu'il arrive à un âge où l'on est beaucoup plus indifférent à ses propres malheurs?
C'est peut-être maintenant quand même. C'est peut-être à présent.
Ouais.
C'est peut-être, je sais pas. Elle est difficile cette question. On est indifférent à ses propres malheurs. Oui, on est. Je ne sais pas. Je me rends pas compte. Mais j'avais pas l'impression d'avoir des malheurs quand j'avais 20 ans. J'avais l'impression de ne pas vivre, de ne pas être dans ma vie, d'être en dehors de ma vie, de ne m'occuper que des choses, d'être un animal en quelque sorte. Que fait un animal? Il va chercher à manger, il va chercher, il doit satisfaire
ses
besoins
naturels. C'est la définition de Descartes que les associations de bien-être animal rejettent complètement. Hein.
Ouais.
Il dit, c'est quoi? C'est de la bidoche sur quatre pattes, un
oui.
animal.
On n'a pas la
d'âme,
conscience.
Il n'a pas d'esprit.
On n'a pas la conscience, oui, on n'a pas la conscience de ce qui se passe. Et donc, on n'apprécie pas la vie. À présent, on a la conscience de ce qui se passe. Malheureusement, on n'a pas la force
alors,
des 20
vous
ans
avez la
pour l'apprécier en pleine forme physique. Avec
Jean-Paul Savard, vous avez maintenant la conscience du présent. Vous êtes retraité.
Oui.
Et vous écrivez des romans. Le dernier, c'est Moussa.
Le totem de Moussa.
Le totem de Moussa. Bon, voilà. On tape sur Internet
votre
nom.
Oui.
Et puis on trouve.
Jean-Paul Savard, S-A-V-A-R-T, le totem de Moussa, les éditions du Poutan. Pardon.
Voilà.
Non, je fais ça parce que les mecs, ils n'arrêtent pas quand on fait des interviews à la télé. Je vois rien. Vous savez, quand j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai un message à faire passer. Il est dans ce livre.
Oui, d'accord. Alors, est-ce que la vie devient une fiction?
C'est ma dernière question.
Est-ce que la vie devient une fiction ?
Oui, quand on la raconte, quand on
l'écrit. Oui, on la réinvente.
Oui.
On réinvente sa vie et on la vit différemment quand on est vieux. Et on se ment à soi-même et on vit dans la vie qu'on voudrait avoir et on est dans des rêves permanents et c'est comme ça qu'on se maintient en vie. Vous savez, Lamartine a réécrit sa vie quand il avait plus de 60 ans.
C'est votre prochain
Le prochain livre et c'est très intéressant parce que j'essaye à la fois de retrouver ce qui fut vraiment sa vie quand il était jeune par rapport à la vie qu'il décrit quand il a écrit ses romans quand il était vieux.
Voilà.
Et c'est pas la même vie.
La prochaine fois que vous viendrez, vous chanterez « Pour moi, la vie va commencer ».
Et mon passé sort de l'oubli.
Ah ben, voyez, on a les mêmes références. C'était l'épisode numéro 109 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïca Strasbourg. 3 fois 20 ans, ça va. Jean-Paul Savard, la semaine prochaine, eh bien, nous aurons un invité surprise, mais une surprise qui va plaire à tous les auditeurs de Radio Judaïca Strasbourg. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom, c'est Ambroise Perrin.
Ambroise Perrin.
Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.